à tous. La grande table à Deauville ce midi pour l'ouverture du festival du cinéma américain sans trop d'américains. La crise sanitaire change l'allure générale des festivals, comme elle change notre regard sur les films, à moins que ce ne soit les films eux-mêmes qui aient changé. Invité, la distributrice et productrice Michelle Halberstadt, ici pour défendre ses films, et le romancier, réalisateur et scénariste Santiago Amigorena. Besoin de cinéma et de culture dans ces temps incertains, mais aussi des savoirs et des idées. Économie utile pour des temps difficiles. Au seuil, c'est le titre de l'essai qu'elle a co-signé au printemps dernier avec Abhijit Banerjee. Crise économique, inégalité, plan de relance, prix Nobel d'économie. La franco-américaine Esther Duflo nous rejoindra à partir de 12h55.
La grande table. Olivia Jesbert.
Il a déclaré, Philippe Augier, le maire de Deauville, le festival du cinéma américain devient cette année le festival du cinéma tout court. Elle a ajouté, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, cette édition a une saveur toute particulière après la longue période de crise que nous avons traversée. Vendredi soir à Deauville, après un passage la semaine dernière à Angoulême, aux côtés du Premier ministre Jean Castex, en soutien au monde du cinéma. Nous sommes dans les salons du Normandie avec mes invités. Michelle Halberstadt, bonjour.
Bonjour.
Santiago Amigorena, bonjour.
Bonjour.
Confinement, puis convalescence, avec un timide retour en salle des films sortis juste avant et quelques nouveautés pendant l'été. Enfin, Tenet envoyé au front pour motiver les spectateurs à retourner en salle et servir de baromètre. Ça y est, Michelle Halberstadt, vous êtes prêt, vous, les professionnels du cinéma, à retrouver le chemin des salles. Vous avez parlé des nécessaires conditions à réunir pour que vos films retrouvent le chemin des salles. Elles sont là.
Mais nous, on était prêts depuis le 22 juin. C'est juste la communication qui n'a pas été prête. Parce qu'au lieu de dire il n'y a pas de fête du cinéma et on attend Tenet, il fallait dire la fête du cinéma, elle ouvre le 22 juin, elle dure tout l'été et il y aura Tenet. Voilà, je trouve que la communication a été très mal faite. On a tous sorti des films cet été. Alors bon, c'était pas forcément des grosses machines, mais nous, on a sorti 3 films. Chaque distributeur indépendant a sorti des films. Et c'était comme s'il n'y avait rien parce qu'il n'y avait pas de blockbuster. Donc c'était un peu agaçant. Donc nous, ça fait 3 mois qu'on est prêts.
Mais vous-même, vos grosses machines, vous les avez un peu suspendues et réservées pour l'automne.
Absolument.
En attendant de voir.
Absolument.
Il y avait quand même
bien sûr.
Un
bien
état
sûr.
De suspension. Hein.
Oui, il fallait que les gens reviennent. Et puis je crois que c'est l'histoire de masque, pas de masque, masque dans le couloir, mais pas dans la salle. Enfin, les gens s'étripaient dans les salles, en fait. Entre ceux qui disaient, mais dans le noir, on n'a pas besoin du masque, et ceux qui disaient, mais si, et qui réclamaient du directeur de la salle qu'on mette les gens dehors. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc je crois que maintenant, le message est clair. Tout le monde est masqué et tout le monde peut retourner au cinéma.
Festival du cinéma tout court, Santiago Amigorena, ça ressemble à quoi, un festival du cinéma tout court?
Moi, je suis argentin, donc j'ai une mauvaise culture sud-américaine. Donc, quand on me dit les Américains sont pas là, en général, je suis content. mais bon, je vais pas mentir. Je suis déjà venu au Festival de Deauville et j'aime beaucoup le cinéma américain, évidemment. Je pense qu'il faut en profiter aussi. Il faut profiter. C'est pas vrai que c'est un cinéma sans film américain. Il n'y a pas de stars américaines, mais c'est quand même un cinéma, un festival qui reste dédié au cinéma américain. Maintenant, avec quelques films plus de la sélection canoise, on va. Mais je pense que ça peut être un très beau festival.
Mais vous sentez que ce festival de Deauville prend quand même une saveur toute particulière, comme l'a évoqué la ministre. C'est vrai, en cette rentrée, la période reste particulière.
Ce qui est très dangereux, c'est que ça ne prenne pas une autre saveur, mais que ça n'ait plus du tout de saveur. Et c'est vrai que le masque, très souvent, hier au dîner ou voilà, quand on rencontre des gens pendant la projection, voilà, c'est tout le temps, il y a quelque chose de très, une distanciation qui fait qu'il y a une partie de la saveur humaine en général qui se perd. Donc, c'est comment faire avec un masque qui est nécessaire, quelque chose qui n'enlève pas l'humanité qu'on a dans un visage. Je pense qu'on trouvera des solutions et c'est un temps à passer.
Je crois que pendant le film, on oublie le masque. Moi, pendant le film, je l'ai oublié. J'y ai pensé avant, j'y ai pensé après. Pendant le film, j'étais dans le film. Ça m'a plus gêné.
Dans un bon film, oui, on oublie un peu tout.
Ah, et le film sera-t-il bon et se terminera-t-il bien? Pour l'instant, il faut faire avec, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Et il y a un besoin de solidarité, de main tendue dans le secteur. Le festival a d'ailleurs fait sa propre sélection, mais il a aussi emprunté des films à Annecy, après une édition virtuelle, celle du Festival du film d'animation, pour monter un programme jeunesse à voir ici avec les films de Rémi Chaillet, notamment Cristal d'or de Johann Sfar, et Le Lupin de Takashi Yamazaki. Le festival a aussi fait main dans la main avec Cannes, annulé au printemps dernier, en présentant 10 films de la sélection cannoise en présence de Pierre Lescure et de Thierry Frémaux. Des mesures de soutien ont été annoncées au secteur. Elles sont nécessaires, Michel Halberstadt. Est-ce qu'elles seront suffisantes? Vous vous posez déjà la question?
Écoutez, elles sont nécessaires, elles sont là. Je pense qu'il faut déjà accueillir ce qu'on nous donne. Alors bien sûr, j'aurais tendance à dire, on parle que de l'exploitant et pas assez de la distribution, la filière de la distribution que les gens ne comprennent pas, ne connaissent pas. On dit toujours les exploitants, les salles, mais il faut mettre des films dans les salles, donc il faut les acheter, il faut les produire, il faut les apporter aux salles. Ça, c'est le travail du distributeur. Mais voilà, moi je trouve formidable ce qui est fait et prenons ce qui est à prendre et après on verra si ça suffit ou non. Mais déjà faisons avec ce qu'on nous donne.
De l'extérieur, on a du mal à comprendre une chose, à savoir si, pour l'instant, la filière, le secteur, certes, a été durement touché, mais est-ce qu'il sera durablement fragilisé?
Bien sûr, parce que déjà, le CNC est nourri et tire son argent d'une partie du ticket, de la vente du ticket de la salle de cinéma. Donc déjà, clairement, les salles ont fermé, c'est jamais arrivé, même pendant la guerre, les cinémas n'ont pas fermé. Donc d'un seul coup, il n'y a plus de rentrée, donc le CNC n'a plus d'argent. Or, le CNC, il donne de l'argent aux productions. Donc, évidemment, à long terme, la filiale est touchée. Et puis nous, par exemple, moi, notre société, on a 17 films qu'on n'a pas sortis, qu'on doit sortir sur un an et demi. Donc on va tous se retrouver avec des problématiques où pendant 6 mois, on ne sort rien. Puis d'un seul coup, on va voir tous nos films, tout le monde va vouloir les sortir en même temps. Il y a des productions qui n'ont pas eu lieu ou qui se font, mais doucement, lentement, avec des mesures sanitaires qui font que dès que quelqu'un est malade, on est obligé de s'arrêter. Donc il va y avoir des trous. La raquette, elle aura plus le même maillage, oui.
Et une absence de visibilité.
Total.
Grande gagnante du confinement, les plateformes de streaming, VOD, qui vont être mises à contribution. En tout cas, c'est le souhait des pouvoirs publics aujourd'hui. Est-ce que le cinéma, la salle, va continuer à faire de la résistance? Est-ce que c'est l'état d'esprit actuel?
Mais je pense que la salle a toujours résisté. On a dit quand la télé est arrivée que c'était la mort de la salle. Voilà. Moi, ce qui me frappe plus que le débat salle-plateforme, c'est l'absence du cinéma dans les conversations. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils parlent des séries, ils parlent pas des films. Moi, c'est ça qui me fait très, très peur. Donc, je pense que c'est avant tout un problème d'éducation et d'habitude que les gens, il faut que le cinéma reprenne de la place dans leur vie culturelle, déjà, avant de se poser la question de savoir où on le regarde.
Ils parlent des séries, ils parlent aussi des films qu'ils ont pu voir en streaming ou en VOD, justement. Et c'est ça la question. Est-ce qu'au-delà du conjoncturel, est-ce qu'au-delà de la crise et du confinement, vous craignez un changement d'habitude plus profond des spectateurs? Et est-ce que vous commencez pas à réfléchir à l'accompagner, ce changement?
C'est très difficile de dire comment on peut l'accompagner. Quand on fait des films, moi je vois, on produit des films, les plateformes nous proposent de les produire pour eux directement, de faire des originaux pour eux, et les réalisateurs font la résistance et disent « mais non, moi mon film, je veux qu'il aille au cinéma ». Évidemment qu'on va essayer de sauver ce qui peut être sauvé. C'est pas la même chose de regarder un film à plusieurs que de regarder un film en petit. Moi, j'espère justement que le confinement a montré aux gens que de regarder un film sur une tablette, c'est pas pareil que de le voir au cinéma. Moi, j'ai fait l'expérience de Roma. Je l'ai vu en grand au cinéma et sur ma tablette. J'ai pas vu le même film. Donc c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens, c'est que le cinéma, c'est du partage. Donc oui, on va essayer de résister autant qu'on peut.
Santiago Amigorena, c'est aussi ces questions-là que le film de Jonathan Nociter, inspiré, adapté de votre roman « Mes derniers mots » paru chez POL, publié il y a 5 ans, qui sortira en salle ce film, hein, « Last Words » le 21 octobre. C'est aussi ces questions-là qu'il pose. Le réalisateur Jonathan Nociter disait qu'il a trouvé dans vos mots comme un écho à une angoisse sourde qu'il habite depuis quelques années et il vit un peu aux quatre coins du monde, Jonathan Nociter, celle de la disparition de la culture, une disparition qu'il dit volontaire dans le quotidien des gens. Il parle presque d'un mépris pour la culture aujourd'hui. Comme vous disiez, Michel Halberstadt, cette absence des discussions autour du cinéma.
Oui, en entendant cette critique, je pense que beaucoup de gens de cinéma font à juste titre dire que maintenant on parle des séries et pas des films. Je me souviens que moi, quand j'étais adolescent, je me désolais qu'on parlait tout le temps de cinéma au lieu de parler de peinture. Je pense qu'il y a une évolution, qu'évidemment, il faut résister. Quoi. Il y a pas un, que la donnée du cinéma comme événement dans la cité, c'est-à-dire que le cinéma doit être vu par plusieurs personnes en même temps, ça me semble fondamental, sinon ce n'est plus le cinéma. Donc le cinéma à la télé, le cinéma en streaming, c'est autre chose. Mais en même temps, c'est autre chose qui est réel, c'est autre chose qui est demandé, quoi, qui est créé par les gens qui le voient. Donc toujours, on a l'impression que c'est les gens qui font, qui peuvent résister. Mais les gens qui voient, les gens qui lisent, les gens qui regardent un tableau, c'est eux qui créent aussi l'œuvre. Donc on ne peut pas se battre contre ça. Donc il faut résister, mais en même temps accepter qu'il y a une évolution et voilà, et continuer à vivre avec ça. Donc moi, je me désole moins, c'est-à-dire que le livre et le film de Jonathan Nociter, Last Words, défendent, je pense, une position par rapport à la culture comme une forme de communication humaine, mais en même temps, en disant que cette destruction qui est terrible, ou cette absence qui commence à... qu'on commence à voir depuis longtemps, et donc qui dans le livre, dans le film, qui sont des œuvres d'anticipation, progressent jusqu'à la fin de l'humanité, fait que l'humain perd quelque chose de fondamental. Mais il le perd en accompagnant son temps. Et finalement, ce qu'il y a dans le livre, et ce que Jonathan a fait d'une manière vraiment magnifique dans le film, c'est que entre les derniers êtres humains qui restent sur Terre, il y a une forme de tendresse et une attente de la fin qui n'est pas du tout... voilà, c'est là à laquelle nous ont habitué les films américains sur la fin du monde, donc où tout est terrible et violent. Donc voilà, je pense que ce calme-là, on peut le trouver, que c'est la culture qui nous permet de le trouver, même une culture qui évolue du cinéma à la série ces dernières années. Voilà, il faut chercher ce qui est bien dans chaque œuvre.
Et c'est un très beau film sur la culture, c'est un très beau film sur la transmission aussi, c'est une déclaration d'amour, la vôtre aussi, Santiago Amigurena, sur au cinéma. On va écouter un extrait de Last Words de Jonathan Nociter.
Do you understand what this is? Do you know the opportunity here? Damn it, do you understand that? This... Stock. This is an unwritten tablet. This is particles that hang magically in the air. And it's a last chance to leave a trace, a living trace, a testimony of us. Of us. It's a last chance to leave a living trace of man as he once was.
Extrait de ce film qu'on vient d'entendre, The Last Word de Jonathan Nociter avec Nick Nolte, qui est ici le monsieur Shakespeare du film, avec Charlotte Rampling, avec Khalifa Touré, le dernier homme, avec Alba Rohrwacher, la réalisatrice italienne qui est aussi présente dans ce film, à sortir vers la fin octobre, le 28 octobre. 21 octobre dans toutes les salles. En France, c'est un film aussi sur le dernier homme, mais aussi sur le dernier film. Ce dernier film, il aurait quelle fonction ? Celui de garder trace de toute notre existence, celle des hommes sur Terre, de garder trace aussi de ce que fut cette humanité.
Oui, ce que l'idée géniale d'adaptation de Jonathan, qui avait lu le manuscrit, donc le livre, bien avant la publication. Et le livre raconte l'histoire d'un dernier écrivain. Donc le dernier écrivain qui se dit il faut continuer à écrire. Donc quoi, qui le dit à un jeune homme, il dit voilà, même s'il y a plus d'hommes pour lire, il faut continuer. Il faut laisser une dernière trace. Et Jonathan a eu une idée géniale qui est d'adapter ça au cinéma en faisant que ce soit un dernier cinéaste et pas un dernier écrivain. Et donc c'est voilà, il y a un vieil homme qui est surnommé Shakespeare, qui est joué par Nick Nolte et qui convainc un jeune homme qui n'a rien à voir avec le cinéma, qui n'a jamais su ce que c'était le cinéma, qui n'a jamais su ce que c'était la télé, parce que ça se passe en 2086, de filmer une dernière fois. Effectivement, l'idée, c'est que une œuvre n'a pas besoin forcément de rencontrer un public qu'on va comptabiliser, qu'une œuvre porte en elle quelque chose de l'humanité, de tous les hommes, et que voilà, si on sait que plus personne ne va lire ou plus personne ne va regarder un film, je pense que quand on est écrivain ou cinéaste, il ne faut pas se poser la question et il faut quand même écrire ou filmer.
le cinéma comme empreinte. Hein, quand le monde se sera effondré, le cinéma seul pourra conserver peut-être une dernière trace du passage de l'homme sur Terre. On est à Deauville à l'occasion de la 46e édition du Festival du cinéma américain. On va retourner sur les fameuses planches qui bordent la plage de Deauville avec la jeune réalisatrice, la trouvillaise Daphné Bévire, qui vient de réaliser un documentaire hommage à ce festival, Deauville et le rêve américain, projeté vendredi prochain au festival dans la sélection Les Docs de l'Oncle Sam.
Au départ, le Festival du cinéma américain, c'était surtout une vitrine des blockbusters hollywoodiens. Et à l'époque, les grands films américains venaient en France et en Europe seulement en octobre. Et donc, tous les films pouvaient être présentés en avant-première au festival américain de Deauville. Il y avait des soirées extraordinaires pour soutenir tel ou tel film. Il y a eu des combats de cow-boys et d'indiens dans les rues. C'était assez extraordinaire.
La grande table, France Culture.
Moi, je me souviens très bien d'avoir reçu Travolta chez moi, qui est venu passer un week-end et qui a vraiment enflammé le festival de Deauville. Je pense peut-être que c'est un des tout premiers vraiment à avoir donné l'exemple pour aller à Deauville. Voilà, donc j'en ai gardé un souvenir formidable parce que là, j'ai vu que c'était pas une star, c'était un homme normal.
Voilà, l'ambiance a un tout petit peu changé depuis cette époque, mais le cinéma est là et relà à Deauville cette année. La pandémie ne doit pas sonner l'heure du repli sur soi, a rappelé le maire de la ville. Alors on va tenter d'ouvrir un peu aussi les bras au cinéma avec vous deux jusqu'à midi et demi sur France Culture aujourd'hui. Vendredi soir pour la soirée d'ouverture, c'est un film ARP, votre société de distribution Michel Halberstadt, qui a été projeté, Minari, de Lee Isaac Chung, réalisateur américain d'origine coréenne. Les organisateurs ont loué votre flair infaillible. Qu'est-ce que vous cherchez à flairer comme productrice ou distributrice? Qu'est-ce qui va retenir votre attention? Quel type de film?
Je vais vous décevoir, mais quand je suis devant un film, je ne suis ni productrice ni distributrice, je suis juste spectatrice. Et je tiens à le rester.
Oui, mais là, vous l'avez quand même choisi, ce film, oui, et vous venez le défendre aujourd'hui. Oui. Pourquoi lui? Parmi les centaines d'autres que vous devez voir au fil de l'année.
D'abord, comme spectatrice. Parce qu'il me touche en tant que spectatrice. C'est la première chose. Après, vous pouvez vous demander, est-ce qu'il va dans mon line-up? Est-ce que j'en ai besoin? Combien est-ce qu'il faut que je paye pour l'acheter? Mais le premier réflexe, c'est en tant que spectatrice, qu'est-ce que ce film me fait? Voilà. Comment il m'affecte? Et pourquoi est-ce que je pense qu'il y a d'autres gens qui peuvent ressentir la même chose que moi? Vous voyez, toute ma vie, je me souviendrai du premier plan d'Épouse et concubine, Gong Li, en gros plan, qui parle et qui dit à sa mère, ok, cet homme-là que je n'aime pas, pour sauver la famille, je l'épouserai. Elle se met à pleurer. Je savais que j'allais acheter le film. Enfin, vous ne savez pas qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui vous déclenche. Et dans Minari, c'est l'incroyable douceur et l'humanité du film qui m'a vraiment cueillie.
ARP a, dès sa naissance, quand même, au début des années 90, défendu un cinéma asiatique, encore émergent sur la scène mondiale. Il y a Wong Kar-wai, bien sûr, Koreeda, Kyoshi Kurosawa et tant d'autres. Minari, c'est un film américain, un film qui nous parle de l'époque, qui aborde la question de l'accueil, de la terre, de l'identité et en creux, ici, celle du rêve américain. Avec cette famille d'immigrés coréens dans l'Amérique de Reagan, qui choisit à son arrivée de quitter le confort de la Californie pour s'installer dans une ferme dans l'Arkansas, c'est le mythe des pionniers, c'est le mythe de la Renaissance, c'est une question qui reste quand même assez universelle. Pourquoi, néanmoins, aller chercher en 2020 ce film-là, un film comme celui-là?
Est-ce que c'est parce que je suis moi-même de parents immigrés et que je suis la première française de ma famille? Peut-être, c'est ça. Est-ce que c'est mon attirance pour le cinéma asiatique et cette culture et cette langue? Peut-être, c'est ça. C'est aussi surtout parce que je n'ai jamais cru au rêve américain et cette manière aussi naïve de l'aborder. Parce que vraiment, cet homme qui arrive et qui pense qu'il va faire pousser des légumes coréens en plein Arkansas, c'est d'une naïveté totale. Mais ce que j'adore, c'est ce père qui est à la fois très très attaché à sa femme, à ses enfants et à leur bien-être et à leur bonheur, mais en même temps, ce qui passe avant tout pour lui, c'est de montrer à ses enfants qu'il peut réussir quelque chose. Et je trouve ça très très beau, cette responsabilité qu'il se donne et qu'il se sent, en tout cas, en tant que père de famille, de donner l'exemple que quand on veut réussir, vraiment, on peut laisser une trace. Et voilà, je crois que c'est cette manière d'envisager la paternité et la famille qui m'a touchée.
Voilà, sa sortie n'est pas encore datée.
Hélas, non, ça dépend des Américains. Et comme les Américains, leurs salles sont encore plus ou moins fermées, Tant que eux ne sortent pas, nous, on ne peut pas le sortir.
Vous êtes aussi distributrice de Peninsula, présentée samedi à Deauville, en salle très bientôt, le 21 octobre, de Yon Sang-ho, la suite de Last Train, dernier train pour Busan, présentée il y a 4 ans à Cannes, qui avait réveillé toute la séance de minuit, c'est peu dire. Suite très attendue par les aficionados des films de zombies. La fin du monde a eu lieu, la Corée a été envahie par des sortes de morts-vivants, des zombies. Un groupe de survivants revient sur les lieux, un peu contraint et forcé. On écoute un extrait Peninsula.
You get the truck, come back with the money.
That's $2.5 million per head. If you come back alive.
Un film post-apocalyptique. Est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer la fin du monde ou le monde d'après sans glisser un peu d'utopie ?
Vaste question, j'espère que non. En tout cas, moi je m'y refuse. On ne peut pas vivre sans utopie, c'est pas possible.
Il en faut une part.
Ah oui, il en faut, oui.
On peut parler de Last Word là-dessus, de votre roman et du film dont il est adapté, de Jonathan Nociter, Santiago Amigorena, parce que c'est un hommage au cinéma, bien sûr, mais pas que. C'est aussi un film sur cette humanité qui est en train de foncer droit dans le mur. Et c'est ce que vous rappelez à travers cette histoire. Il y a des passages dans le livre qui sont quand même extrêmement troublant, notamment sur la question de la distanciation sociale, sur le fait de ne plus se saluer, de ne plus se toucher. Un passage aussi sur la question du masque. Vous écrivez « On m'a dit qu'avant ma naissance, les enfants ne portaient pas de masque dans les rues des villes. Ils marchaient, insouciants, inspirant un air que depuis des décennies, on savait nocif. Certains hommes portaient des masques, mais pas les enfants. Ce ne fut que 57 ans après avoir interdit aux enfants de faire de la gymnastique les jours de grande pollution qu'on rendit obligatoire le port du masque pour se rendre à l'école. Jusque-là, pour les adultes, la honte d'avoir créé un monde où les enfants devaient porter des masques fut plus importante que le besoin de le sauver. » On y est un peu dans ce monde-là quand même. Hein,
déjà oui, oui, c'est ce qui a troublé, je pense, beaucoup de gens qui ont vu le film, c'est qu'on parle aussi d'un virus qui tue les gens tous avant de mourir.
Et d'une succession de catastrophes écologiques.
Mais l'idée de base du livre, c'était de ne pas raconter une fin du monde comme on en a raconté plein, donc où c'est les machines qui prennent le pouvoir, ou alors il y a une grande inondation, un grand tremblement de terre, une météorite qui... Mais de dire que, voilà, que tout ce qu'on était en train de faire, c'était pour la fin du monde. Donc, aussi bien notre manière de vivre, notre relation à la terre, notre relation à la culture, à l'agriculture. Donc tout ça était un peu une critique de tout ça. Et quand j'ai écrit, je me suis amusé à faire l'histoire du monde entre 2000 et 2086. Donc il y a toutes les catastrophes qui arrivent, qui sont un peu mises année par année. Mais oui, évidemment, quoi. Il n'y a pas de politique sans utopie. Donc, pour faire quelque chose contre ce qu'on est en train de vivre, pour aller contre, il faut absolument imaginer quelque chose qui peut être la fin du monde. Mais la seule utilité d'imaginer la fin du monde, c'est pour pouvoir dire demain, je me suis trompé, le monde n'est pas fini. Et peut-être je participais à convaincre des gens qu'il fallait changer un peu le sens de notre action. Donc, le livre comme le film vont dans ce sens-là, j'espère.
Et le livre comme le film célèbre le présent. Hein, ce qui est bien dit dans le film par notre vieux cinéaste, notre Shakespeare, nous sommes le seul animal qu'il sait qui va mourir. Il se comporte comme s'il avait l'éternité devant lui. Le présent de cette chose est merveilleux. Célèbre le présent. Il y a toute cette idée aussi. Ça fait 6 ans qu'il travaille sur le film. Hein, ça, Jonathan Nociter l'a rappelé. Vous, ce livre a été écrit il y a aussi quelque temps. C'est pas lié directement à la pandémie, mais c'est vrai que c'est difficile pour nous de pas voir le film avec des yeux d'aujourd'hui comme un film assez annonciateur de cette catastrophe qui nous attend. Vous y aviez pensé comment, à l'origine, à cette histoire? Comment l'idée, elle avait germé en vous?
Je vais être très égocentrique, mais en fait, j'ai écrit, c'était en 2008, et j'ai écrit deux livres en même temps. Un livre qui racontait la fin d'une histoire d'amour, d'un couple avec des enfants, et une fin du monde. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu besoin d'écrire vraiment au même temps. Donc ma journée était partagée entre ces deux écritures, la fin de quelque chose de très intime et la fin de l'humanité. Et dans la manière d'écrire la fin de l'humanité, il y avait une forme de joie, parce que ça me permettait d'imaginer plein de choses tragiques qui arrivaient à d'autres que moi. Et après, bon, c'est un livre qui vient aussi de lecture. Il y a beaucoup, beaucoup de citations d'un livre absolument sublime de Hölderlin qui s'appelle Hyperion, qui déjà, donc il y a 200 ans, vantait un rapport à la Terre qui serait exactement le contraire de celui qu'on a, c'est-à-dire de ne pas séparer nature et culture, par exemple, de concevoir l'homme et la Terre comme une seule chose, donc de ne même pas dire qu'il faut défendre la nature, qu'il faut préserver les forêts, etc., mais de comprendre que c'est une seule chose, qu'on est un seul animal dans cet ensemble-là, un seul corps vivant. Donc voilà, le livre a plein d'origines, et ça c'est le film, comme je disais, Jonathan a lu le manuscrit très très tôt, il a tout de suite voulu faire un film, et voilà, c'est une sublime aventure aussi d'aller vers ça, d'aller vers un film qui raconte autre chose, parce qu'il parle beaucoup de cinéma, mais qui en même temps porte toutes ces idées, qui sont des idées qu'on partage avec Jonathan depuis bien avant, parce qu'on est amis depuis 25 ans. Donc.
Voilà, un film qui porte quand même une vraie part d'utopie en lui, qui rouvre les possibles, qui nous invite à être ensemble, à défaut de finir seul. Et un film qui fait dire au cinéma, regardez-moi, courez-y. Merci beaucoup à vous, Santiago Amigoreta, d'avoir été autour de cette grande table. Merci, Michel Halberstadt, d'être passé. Je rappelle que le Festival du cinéma américain de Deauville, 46e édition, se poursuit jusqu'à la fin de la semaine.